un dimanche, à l'heure du goûter. On rencontre un ami salarié dans un centre social de la région parisienne depuis un an et demi pour parler de son travail. Pour lui, la notion d'éducation populaire est importante, même si les pratiques ont fortement évolué. Entre autres, l'apparition grandissante du concept de participatif.
Bon, c'est pas très présentable.
Bah, l'éducation populaire, alors c'est un secteur assez vaste, mais rapidement, c'est permettre l'accès au savoir et l'accès aux loisirs à tout le monde et aux populations les plus précaires qui n'ont pas accès au savoir et aux loisirs. Donc ça s'est organisé, ça date du 19e siècle, ça s'est organisé d'une part par les bourses du travail, par les universités populaires, et c'était permettre aux prolétaires, aux ouvriers, après leur travail, de pouvoir avoir accès à ce savoir, pouvoir transmettre ce savoir, et avec une profonde, un objectif clair et identifié de changement social. Donc intrinsèquement, l'éducation populaire est politique. Et même si plusieurs courants existent dans l'éducation populaire, il y a cette vision et cet objectif partagé de changement social. Il y a un courant ouvrier qui a été très fort et très marqué à l'ère de l'industrialisation. Il y a un courant catholique aussi qui a été très important dans l'éducation populaire. Mais en tout cas, peu importe les courants, ils se retrouvent sur cette vision-là de changement social et d'émancipation. D'émancipation au sens large, et pour le mouvement ouvrier, c'était que la classe ouvrière et les prolétaires s'émancipent de leur statut de domination. Voilà. Cette vision qu'on a un peu perdue aujourd'hui, cet objectif politique qui était clairement affiché à l'époque, qu'on a même complètement perdu dans les centres sociaux, en tout cas dans beaucoup de centres sociaux. Toute cette partie de conscience de classe, finalement, qui s'amenuise et qui tend à disparaître, qui fait que ça joue énormément. L'éducation populaire s'est ringardisée maintenant. Quand moi je dis que je fais de l'éducation populaire, on me rit presque au nez, quoi. Éducation populaire, ça devient aussi ringard que lutte des classes, finalement, puisque c'est souvent lié dans la représentation des gens. Et on s'est dirigé donc dans le secteur des centres sociaux vers un traitement plus individuel, moins collectif et ce qu'on appelle le développement social local, une espèce de package politique qui fait que on change, il y a un glissement sémantique. Et on oublie tout ce qui est lutte collective qui était portée par l'éducation populaire. Et on va parler du développement social des quartiers. Donc des mots qui sont beaucoup plus euphémisés. Et puis des rapports aux politiques qui sont beaucoup plus imbriqués. Et aux financeurs qui fait qu'on est moins en conflit. Qu'on nous demande d'être moins en conflit du coup avec les bailleurs, par exemple, les bailleurs sociaux. Avec qui on doit s'asseoir autour de la table. Donc c'est quelque chose de très intéressant, mais qui, du coup, nous fait oublier le conflit qui est dans lequel on devrait être en tant que porteur d'éducation populaire et de changement social. On oublie complètement cet aspect du conflit, on l'amenuise pour mettre tout le monde autour de la table, même si on a des intérêts complètement différents. Voilà, c'est ce qu'on recherche maintenant avec le développement social local. Sur le développement social participatif, qui est un peu la bible des centres sociaux, je tire mes mots d'un bouquin qui a été écrit et publié par la Fédération nationale des centres sociaux, où ils disent... le titre, c'est « Pas de politique, point d'interrogation, trop de politique, point d'interrogation ». J'ai pris une page presque au hasard.
On est témoin.
Vous êtes témoin. Enfin, le risque d'instrumentalisation guette le porteur de projet sur les moyens politiques de changer l'environnement dans lequel il va se développer. Alors, dès que on aborde, je fais une parenthèse, hein, dès qu'on aborde le mot politique, derrière, on va être instrumentalisé. Ça va être le risque, oulala, attention, politique, non, il faut surtout pas être trop politique, parce que sinon on va être instrumentalisé. Je continue. La dimension participative implique la concertation, la co-gestion et la co-décision, trois termes qui contribuent à définir une démarche réformiste plutôt que révolutionnaire. Elle place la dynamique de changement dans l'espace public, dans le cadre démocratique organisé des contrats, des négociations, des conflits visibles sur le territoire, entre acteurs qui connaissent et reconnaissent la légitimité de leurs interlocuteurs. Donc là, avec cette phrase que je viens de citer, on s'aperçoit que finalement, on participe dans un certain cadre, et en aucun cas, on doit remettre en cause les frontières de ce cadre. Et ça, enfin, il y a 30 ans, il y a 40 ans, enfin voilà, quand on parlait de changement social et de projet de société, c'était justement pour faire évoluer et bouger les cadres. Et maintenant, on ne peut plus. On est complètement enfermé dans un cadre fixé par les politiques, et on s'interdit au niveau des structures, au niveau des fédérations, on s'interdit de bouger ces cadres. Donc il faut faire avec. Voilà, il faut faire avec les bailleurs, il faut faire avec les politiques. Par exemple, sur la participation, effectivement, on va demander, mais même dans les projets de la CAF, puisque la CAF finance sur plusieurs années les projets sociaux des centres, la CAF va demander à ce qu'il y ait une inscription et de la participation des habitants. Mais on ne se pose pas la question du sens profond de cette participation, et surtout on ne se demande pas à quoi ils participent. Et finalement, sur le terrain, on s'aperçoit que la participation des habitants, ça va être de créer une instance participative de concertation, le plus souvent. Donc créer un comité de quartier, ça a plusieurs noms, comme comité de maison, comité de quartier, enfin bref, créer ces espèces d'instances à moitié fictives pour dire qu'on a effectivement œuvré pour la participation des habitants, mais ce qu'on demande à ces instances, c'est le pouvoir politique qu'elles ont réellement. Ça, on ne l'interroge jamais. Et il vaut mieux pas l'interroger, parce qu'on tomberait de haut. Ça reste de la concertation, voire de la manipulation pour beaucoup, et pour beaucoup de mairies, et toutes couleurs confondues. Parce que on peut penser que les mairies communistes pourraient laisser plus de place à la participation des habitants, mais c'est faux, tout est verrouillé. Donc ces espèces de structures fantômes font croire qu'on fait participer les habitants, alors que c'est faux d'une part, parce que la participation, elle est vraiment au degré zéro, c'est-à-dire de la manipulation ou de la concertation. Et puis, surtout, ces instances, la création de ces instances font qu'on ne se pose plus la question de à quoi, finalement, les habitants participent. Et comme il n'y a pas d'interrogation politique sur les causes structurelles de la pauvreté, de la précarité dans ces quartiers, finalement, les habitants, ils se retrouvent à participer aux décisions de changement des bacs à fleurs et des couleurs des bacs à fleurs sur leur trottoir, et puis, ou alors, le débat va porter sur les crottes de chiens, le nombre de crottes de chiens sur les trottoirs. Donc voilà, cette participation, elle est complètement tronquée, et puis on se retrouve avec finalement une espèce de pis-aller de participation qui nous fait oublier complètement les luttes collectives et contre les réelles causes de précarité.
Définition. La performance sociale s'entend ordinairement dans le secteur de l'entreprise et recouvre les activités hors marché qui répondent à certains critères tels que protection de l'environnement, bien-être des employés, éthique, engagement dans certains programmes communautaires ou de développement, etc. Dans cette logique, les coûts additionnels de la performance sociale ne sont pas censés affecter, bien au contraire, la performance économique et financière de l'entreprise. En effet, la performance sociale est le moyen par lequel l'entreprise crée une image ou une réputation susceptible de constituer un avantage par rapport à ses concurrents.
Comment mesurer la participation des habitants? Alors ça, c'est pareil. Ça, dans cette espèce d'objectif de performance sociale qu'on nous impose de plus en plus, avec tout ce qui est évaluation, tout ce qu'on retrouve un peu partout dans le champ du social qui vient du secteur économique, on va nous demander maintenant d'évaluer la participation des habitants. Alors pour moi, la meilleure participation des habitants, ça serait que les habitants récupèrent la structure et qu'il n'y ait plus de professionnels. Mais ce n'est pas comme ça qu'on mesure la participation des habitants pour dans les projets sociaux. Ça va être, comme je le disais, s'il existe une instance où on peut réunir une fois par semaine les habitants, c'est compter le nombre d'habitants dans les conseils d'administration, ça peut être intéressant. Et puis on voit que ce n'est pas toujours les plus présents dans les conseils d'administration. Et puis il y a d'autres critères d'évaluation qui sont complètement aberrants et qui finalement pointent pas le malaise sur ce concept de participation. Alors c'est pareil, on a une espèce de glossaire dans les centres sociaux. Citoyenneté, démocratie participative, développement social. Tous ces termes qui sont complètement, qui sont vides de sens, mais en fait, on a vidé la substance des revendications que pouvaient porter les quartiers populaires et les structures dans les quartiers populaires par l'éducation populaire, en apportant de nouveaux termes qui ne veulent rien dire, puisque démocratie participative, forcément, la démocratie, elle est participative. La participation des habitants, dans les organisations communautaires ou les organisations autonomes, forcément, les habitants participent, puisqu'ils devraient être à l'origine des projets et ils devraient les porter en toute autonomie. Donc, c'est des termes qui ne veulent plus rien dire, mais effectivement, qui guident notre action au quotidien. En fait, ce qui se passe dans le cadre des rénovations urbaines, c'est qu'on fait appel aux structures de proximité, notamment aux centres sociaux, mais alors après ça va être aussi maisons de quartier, MJC ou comme ça, puisque c'est un peu la caution justement pour les bailleurs et puis pour les architectes et toutes les personnes qui mettent en place ces rénovations urbaines, pour toucher le public. Donc comment ça va se passer? C'est qu'ils vont organiser des espaces de concertation où ils disent proposer les plans de rénovation urbaine qui sont déjà tracés aux habitants, en leur demandant ce qu'ils en pensent. Donc on va aller chercher l'opinion des habitants, mais sur des plans qui sont tracés, sans qu'ils aient aucun pouvoir sur la future rénovation. Et comme je disais, c'est on leur dit clairement qu'on va leur demander leur avis sur la fermeture du parc, du nouveau parc le soir, ou sur la loge du gardien, sur l'emplacement de la loge du gardien. Voilà. Autour de ces tables, pour ces concertations de rénovation urbaine, autour de la table sont réunis généralement les maires ou représentants des communes, les bailleurs sociaux, les cabinets d'archi et les habitants. Et les responsables ou animateurs, animatrices de structures de proximité. Enfin, le risque d'instrumentalisation guette le porteur de projet sur les moyens politiques de changer l'environnement dans lequel il va se développer. La dimension participative implique la concertation. La concertation, la co-gestion et la co-décision, trois termes qui contribuent à définir une démarche réformiste plutôt que révolutionnaire. Elle place la dynamique de changement dans l'espace public, dans le cadre démocratique organisé des contrats, des négociations, des conflits visibles sur le territoire, entre acteurs qui connaissent et reconnaissent la légitimité de leurs interlocuteurs. C'est vrai que la participation, du regard que j'en ai, c'est Et puis, c'est le mot hein, qui sera utilisé par les politiques, c'est de responsabiliser les habitants dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien et dans leur environnement. Mais le problème, c'est que... Enfin, il faut voir les environnements desquels on parle. On parle des zones, des quartiers pauvres, qui sont souvent des ghettos relégués et loin de la ville. Et donc... De responsabiliser les gens sur leur environnement, c'est au final de leur dire bah, « Écoutez, on vous laisse la parole, on vous donne la parole, on vous écoute. » Ça ne veut pas dire qu'on fera ce que vous nous demandez, mais on vous écoute, on vous donne la parole. Donc finalement, la merde dans laquelle vous êtes, vous en êtes responsable. Donc c'est un espèce de partage des responsabilités vis-à-vis de la misère dans laquelle ils vivent. Et donc, on est dans un espèce de schéma libéral, effectivement, qui vient s'opposer à l'éducation populaire, où avant, on pouvait avoir, alors sans idéaliser les années précédentes, mais où on avait vraiment des luttes collectives qui pointaient clairement les responsabilités politiques et les responsabilités structurelles, les causes structurelles de la misère et puis des quartiers pauvres. Et là, on est dans une logique libérale d'individualisation des habitants. En fait, tu peux pas te plaindre si tu participes pas. Donc, il faut que tu viennes participer, il faut que tu viennes au comité de quartier, puisqu'on a créé un comité de quartier. Alors, on se plaint qu'il n'y ait personne, on se demande pas pourquoi il n'y a personne dans ces comités de quartier, mais à la personne qui va venir se plaindre, on va lui dire « participe au comité de quartier ». Et puis voilà, on te donne la parole, donc t'as pas à te plaindre, en gros. Voilà, donc on est dans un espèce, effectivement, de tournant, enfin, ça fait un petit moment qu'il est opéré maintenant, justement, un tournant libéral qui fait qu'on responsabilise les individus à leur propre misère. Voilà, c'est la responsabilité partagée. Ça dépolitise complètement la question des banlieues, et puis ça individualise tous les problèmes socio-économiques, tous les problèmes de discrimination qu'il peut y avoir dans ces banlieues. Et ça, quand je suis en contact avec les jeunes, ils me le disent, et c'est marrant, parce qu'alors, il y a des sous quand même hein, pour ces structures-là, qui sont des structures sociales et socio-culturelles. On est vraiment entre le socio-culturel et le social. Il y a énormément de sous, il y a énormément de musées, de cinéma, de structures de Paris, par exemple, qui invitent des groupes de jeunes à venir. Et les jeunes, ils disent « Mais c'est bien gentil de nous inviter à Paris, mais de vouloir nous faire un tas d'activités, mais quand on est contrôlé 5 fois, en se déplaçant de Vitry à Paris, qui est une distance d'à peu près 10 km, quand on est contrôlé 5 fois par la police, juste parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'on est rebeu, enfin voilà, au bout d'un moment, non. Je veux dire, ça suffit pas de nous donner des places de cinéma et nous donner des places de théâtre. Donc toute la question politique est complètement mise de côté. On va acheter la paix sociale, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Hein. On va acheter la paix sociale à coup de participation de pseudo-participation des habitants, à coup de financement d'actions, mais jamais des projets à long terme de changement social qui était à l'origine le projet de l'éducation populaire, seront mis en place, puisqu'on n'est plus financé là-dessus. Il ne faut pas faire peur aux financeurs, il faut pouvoir les brosser dans le sens du poil, puisque maintenant on se met autour de la table avec eux. Donc on est dans un espèce de consensus mou, voilà, pour acheter la paix sociale et la participation des habitants, c'est en plein là-dedans.
Vous venez d'écouter « Usage du participatif dans l'éducation populaire ». À la réalisation, au montage et à la prise de son, Charlotte Rouault et Benoît Bory. Février 2010.